Philosophie de la matière par le père Philippe Arimont, 2 février 1990, premier cours.
Question par rapport à ce que nous avons vu la dernière fois. Bon, alors, je continue. Dans le livre 7, maintenant, puisque tout mu est nécessairement mu par quelque chose, soit une chose mue du mouvement local par un autre qui est mu, soit à son tour le moteur mu par une autre chose mue, et celle-là par un autre, et toujours ainsi. Nécessairement, il y a une chose qui est premier moteur. Et l'on ne peut aller à l'infini. Voilà le raisonnement. En bref, voyez, tout repose sur le fait tout ce qui est mu, mu par un autre. Ce que nous avions vu la dernière fois. J'avais essayé de vous préciser qu'est-ce que ça représente. Constatation, c'est très important. Parce que vous savez bien, je vous ai envoyé à l'article du père Dubarle, qui date déjà de la revue philosophique, qui était la revue de l'Institut catholique de Paris à ce moment-là. Vous le trouverez facilement dans De lettres à Dieu. Il montre comment les voies d'accès que saint Thomas prend sont impossibles à être reçues par une mentalité scientifique. C'est intéressant comme article qui soulève les objections d'une mentalité scientifique. Que la physique d'Aristote et la métaphysique d'Aristote n'est pas au niveau des sciences modernes. Autrement dit, l'épistémé, pour Aristote, a un autre sens que pour les modernes. Les degrés du savoir de Maritain que vous avez commencé et que vous continuez, parce qu'il faut toujours continuer de le faire, c'est de la critique. Alors, tout ce qui est mu est nécessairement mu par quelque chose, par un autre. Est-ce une vision métaphysique sur la physique? Ce qu'on dit facilement, on dit que ce livre 7 et le livre 8 d'Aristote, ce n'est pas de la physique. Ce n'est plus de la physique au sens aristotélicien. Ou est-ce que c'est une perspective critique? Et ça, c'est très important de bien le saisir. Et c'est pas commode. Quand on discutera tout le temps pour bien voir si c'est une perspective critique ou une perspective... Je ne crois pas que c'est une perspective métaphysique. Je ne crois pas que c'est une perspective métaphysique appliquée à la physique. Je crois beaucoup plus que c'est une perspective critique, personnellement, et de plus en plus. Je vais m'expliquer pour que vous compreniez. Au fond, la physique d'Aristote est entourée par deux livres critiques. Le premier livre qui nous montre l'intelligibilité de ce qui est mu. Ce qui est mu a une intelligibilité suffisante pour permettre une philosophie propre de s'élaborer. Aristote est obligé de dire ça face à Platon, face à tout le courant des Ramites, le Pantarei. Tout ce qui est mu est inintelligible. Donc il faut le mettre dans le fossé, il faut le laisser de côté, il ne faut pas s'intéresser. Le philosophe ne s'intéresse qu'à l'être. Le philosophe, pour Platon, ne s'intéresse qu'aux formes en soi. La philosophie commence par la saisie des formes en soi, qui sont au-delà du mouvement, qui ne sont pas dans le mouvement. Ça, c'est très net pour Platon. Le devenir, comme tel, est inintelligible. Aristote veut réhabiliter ce qui est mu dans sa philosophie. Vous voyez comme c'est important par rapport à la vision de l'homme. Si le devenir est en dehors de la philosophie, le philosophe ne peut parler que de l'âme et que de la contemplation. Enfin, c'est ce qui a tracassé Platon toute sa vie à cause de la politique. Platon a voulu faire une philosophie politique puisque le roi doit être philosophe. Alors si le roi doit être philosophe et que la politique n'a rien à voir avec la philosophie, je comprends plus. Être philosophe, c'est un très mauvais moyen pour être roi. Si au contraire, le philosophe peut dire quelque chose de la politique, alors, à ce moment-là, le philosophe peut être roi. Et même, il faut que le roi soit philosophe. Autrement, il ne comprendra pas. Or, la politique, c'est la païdéia. C'est l'éducation. Pour les anciens, pour les grecs. C'est une des pièces dominantes de la politique. La politique s'occupe des jeunes. Si on est astucieux. L'homme politique, c'est celui qui voit plus loin que les autres. Et donc, il y a une prospective lointaine. Il faut éduquer la jeunesse pour que l'État puisse demeurer. Il faut corrompre la jeunesse pour la destruction du pays. Oui, ça, c'est l'antithèse. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Corrompons la jeunesse, on ne pourra plus rien en faire. Et alors, c'est la destruction. Fatale. Or, la païdéia, l'éducation, implique un devenir. On devient vertueux. On le sait. On met du temps à devenir vertueux. On le devient. On devient prudent. On devient juste. On devient tempérant. Ça met du temps. Donc, ça implique un devenir. Il faut donc il y a une philosophie de la païdéia et une philosophie du devenir. Vous voyez, et c'est ça qui a été, je crois, pour Platon, toujours, ce qui l'a blessé. Vous voyez, c'est l'épine enfoncée dans sa philosophie. Il veut que le philosophe soit roi. Et le devenir échappe à la philosophie. La philosophie, c'est la forme en soi. Et c'est, je crois, ce qui explique pourquoi le dernier livre de Platon, c'est Les Lois, où il essaie quand même d'introduire dans sa philosophie le devenir. Et il essaie, avec le Parménide, d'introduire dans sa philosophie le devenir. Aristote va, lui, commencer toute son œuvre philosophique par la physique. On est presque sûr de ça. Historiquement, c'est le jeune philosophe Aristote, Assos, quand il est rejeté d'Athènes, ce qui n'est pas le successeur de Platon. C'est terrible pour lui. C'est pas lui. C'est quelqu'un de bien moins intelligent que lui. La Côte d'Amour, qui a été successeur de Platon. Alors, lui commence à montrer qu'il qu'elle doit exister. Il faut faire une philosophie de la nature. C'est absolument nécessaire. Ce que nous avons appelé philosophie de la matière, peu importe, j'aime mieux dire de la matière, source du devenir, ou bien alors disons philosophie du vide, de ce qui est mu. Alors, les livres 7 et 8 montrent la limite de la philosophie de la nature, parce que je ne peux pas identifier tout ce qui existe avec ce qui est mu. Ce qui est mu appelle un autre. Principe critique. Action, si vous voulez, critique. Le devenir ne peut pas être premier. Le devenir, en tant qu'il existe, ne peut pas être premier. Au point de vue de l'être, au point de vue donc du jugement d'existence, au point de vue de l'exister, si vous voulez, le devenir ne peut pas être premier. Il appelle un autre. Tout ce qui est mu par un autre. Alors, voyez, c'est ça que je crois, que c'est un principe critique. Parce que c'est pas une constatation. C'est pas une constatation. Et ça paraît en premier lieu contradictoire avec ce qu'on a découvert la nature. La nature principe immanent de ce qui est mu. Tout mouvement naturel appelle une nature qu'un principe immanent. Principe immanent du feu, principe immanent de la terre, principe immanent de l'eau, principe immanent. Donc, il y a un principe immanent. Or, si un principe immanent, il n'est pas mu par un autre. Il y a une sorte de contradiction qu'il faut bien comprendre entre ce qu'Aristote dit à propos de la phusis. La nature. Principe immanent de ce qui est mu. Donc, ça semble en contradiction avec tout ce qui est mu par un autre. Si vous réfléchissez deux minutes. Alors, vous dites quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, mais oui, mais c'est tout à fait différent. C'est un principe. C'est pas une cause. C'est un principe d'intelligibilité. Alors là, on comprend tout de suite. Vous voyez, si on se place à ce point de vue-là, il n'y a plus d'objection par rapport à la pensée scientifique moderne. L'intelligibilité de ce qui est mu n'est pas première. Pourquoi? Parce que ce qui est mu, c'est l'énergeia, c'est l'entelekeia de ce qui est en puissance. Ce qui est en puissance est second, puisqu'il est en puissance. Je ne fais pas appel à la découverte de l'être en acte. Je fais appel tout simplement à la constatation. Ce qui est en puissance, comme tel, ne peut pas se mouvoir. Il implique un autre, donc il est second. Or, le mouvement comme tel, c'est l'entelekeia de ce qui est mu. Donc, nécessairement, ce qui est mu fait appel à autre chose. Au point de vue de son intelligibilité profonde, au point de vue de son existence, s'il fait appel à un autre, ce qui est mu comme tel n'est donc pas ce qu'il y a de premier dans la réalité existante. Vous voyez, si vous regardez ce qui est mu à la lumière du principe du élément d'existence. Ceci est, ce qui est mu est. Voyez toute la différence entre être mu et exister. Être mu existe, et existe d'une manière telle qu'il ne peut pas être premier, et qu'il est dépendant d'un autre. Je crois, si vous trouvez une autre explication, vous me le direz. Évidemment, si Aristote l'avait dit, ça aurait beaucoup simplifié. Mais je crois que c'est le propre de la physique d'Aristote. On a beaucoup, beaucoup écrit là-dessus, hein, dans tous les ennuis.
Est-ce que ce jugement est une nécessité pour entrer en métaphysique ?
Non, non, pas du tout, pas du tout. La métaphysique entre dans le chemin d'existence, ceci est. Autrement, on devrait dire que la critique est nécessaire à la métaphysique, ce que certains disent.
Est-ce que la lucidité, vous voyez, sur la distance entre le devenir et l'être n'est pas nécessaire à la métaphysique ?
Ah. Oui, mais attention, la distinction du devenir et de l'être se fait à partir de quoi ? Est-ce qu'elle se fait par un point de vue critique ou par le jugement d'existence ? Le jugement d'existence suffit, mais pour nous, étant donné notre conditionnement humain, c'est-à-dire étant donné que nous sommes de pauvres petites intelligences errantes, savent pas très bien où elles vont. Comme nous sommes des petites intelligences errantes, nous avons besoin de comprendre que ce qui est mu ne peut pas être premier. Et donc, au-delà de la physique, il y a une philosophie. forme en soi parfaitement intelligible est l'être premier. C'est l'être premier, vous voyez, dans le sens, elle est ce qui est, quoi. Donc, l'effort d'Aristote, c'est de distinguer l'être et le devenir. Et pour bien distinguer l'être et le devenir, on distingue ce qui est et l'intelligibilité de ce qui est. Parce que si on identifie l'intelligibilité de ce qui est et l'être, on ne peut plus distinguer être et devenir. Donc, on rejette le devenir. Pour sauver l'être, pas tomber dans la catastrophe en disant que l'être est tout le temps dans le devenir. Je crois, hein, c'est une hypothèse de travail que je fais là. Hypothèse de travail pour essayer de comprendre ces chapitres 7 et 8. Voyez l'effort de notre père Stéphane dans sa thèse. C'est intéressant. Je crois qu'il va pas assez loin. Je crois qu'il va aller plus loin. Il faut montrer 7 et 8 comme étant des livres critiques. Voyez, ce que nous appelons nos critiques, c'est-à-dire une réflexion sur toute la philosophie de la nature, pour montrer que la philosophie de la nature n'est pas première. Alors que, selon l'ordre génétique, elle est première. Il le dit au début de la physique. Il faut d'abord commencer par ce qui est le plus connaturel à nous. Qu'est-ce qui nous est le plus connaturel? C'est ce qui est mu. Alors il faut montrer que ce qui nous est connaturel, c'est très bien. C'est premier dans l'ordre génétique. Et ce n'est pas premier dans l'ordre de nature. Alors ça, je crois... C'est cet effort. Nous allons relire ce que je viens de vous dire. Essayez de le comprendre au plan physique. C'est inintelligible. Essayez de le comprendre au niveau métaphysique. Ça ne va pas. Alors, ou bien vous dire qu'Aristote est un imbécile. Je crois qu'il y a toujours le respect du texte. Un texte qu'on ne comprend pas, on dit qu'on ne le comprend pas. On ne dit pas « l'auteur est un imbécile parce que je ne le comprends pas ». À ce moment-là, vous faites vos mesures de l'intelligibilité du texte. Ou bien vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est beaucoup plus génial que vous. Il faut toujours avoir au moins cette bonne humeur à l'égard d'un texte qu'on respecte et dire qu'il est peut-être beaucoup plus intelligent que moi. Alors, je relis. Et vous voyez, alors on met dans la traduction que nous prenons, n'est-ce pas, qui est une mauvaise traduction, alors qu'il en demande une autre. Mais nous prenons celle-là parce que nous l'avons. Mais elle est une mauvaise traduction. Hein. Donc, les hellénistes distingués qui suivent le cours devraient faire une traduction potable de la physique d'Aristote. Rodier en avait une bonne du De Anima. Cette traduction, bien qu'elle soit dans l'édition des belles lettres, n'est pas bonne. Elle est constamment à côté, parce qu'on a vu, on voit bien que l'auteur n'a pas compris. Il faut que l'auteur comprenne le texte philosophique pour le traduire en français. Oui, ce que disait très bien Saint Jérôme, hein. Il faut comprendre pour traduire. Si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas traduire. Vous traduirez matériellement et vous ferez donc tous les contresens possibles. Parce que le mot a une signification propre, conventionnelle, qu'il faut saisir. Alors je relis. Maintenant, puisque donc on s'applique, on a dit précédemment, on a montré précédemment que tout ce qui est mu est nécessairement par un autre. On a essayé de comprendre, pas commode, tout ce qui est mu mis nécessairement par un autre. Vous ne pouvez pas ramener ça à une simple description, une constatation, non. Alors, Non, c'est pas le principe de la philosophie première, de la philosophie de la nature. C'est la nature qui est principe et cause. Alors vous êtes peut-être en face d'un principe d'intelligibilité de ce qui est mu. Ce qui est mu ne se comprend pas par lui-même. Si Bergson avait dit ça, il n'aurait pas dit toutes les bêtises qu'il a dit sur Aristote. Il aurait été très heureux, il a dit, mais c'est ça. Ce qui est mu présuppose un autre. C'est extraordinaire, ça. Hein. Ce qui est mu présuppose un autre.
Est-ce que vous présente la démonstration que donne Aristote juste avant de ce principe? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est une véritable démonstration?
Non, c'est pas une démonstration. C'est une démonstration au plan critique. Une réduction à l'impossible. Vous voyez, en plan critique, dès que vous êtes en face d'une réduction à l'impossible, vous êtes en critique. Dès que vous êtes, on ne peut pas revenir à l'infini, vous êtes en critique. C'est ce qu'on n'a pas assez montré, ça. Et le thomisme décadent, suarésien, n'a pas montré du tout. Et on répète ça. Mais comment voulez-vous comprendre, en principe philosophique, qu'on ne peut pas remonter à l'infini? Au point de vue critique, c'est tout de suite. Parce que remonter à l'infini, c'est supprimer la détermination. Or, tout ce qui est intelligible est déterminé. Donc c'est dit tout de suite. Et vous comprenez tout de suite, on ne peut pas remonter à l'infini, c'est une impossibilité de l'esprit. L'imaginaire remonte à l'infini. Vous savez bien les rêves et les cauchemars. C'est toute l'âme du cauchemar, c'est qu'on peut remonter à l'infini. Dès que vous remontez plus à l'infini, que vous vous réveillez, il n'y a plus de cauchemar. Ça peut rester dans l'imaginaire. Mais le cauchemar, c'est parce que vous croyez, vous êtes pris par un filet qui remonte à l'infini. Indéfiniment, indéfiniment, indéfiniment. Alors vous êtes enlisé. Ça, c'est l'imaginaire. La loi de l'imaginaire, c'est de remonter à l'infini. La puissance de l'imaginaire, c'est de remonter à l'infini. Tandis que dès que vous êtes en philosophie, vous constatez la réalité existante, vous ne pouvez pas remonter à l'infini. Et ne pas remonter à l'infini, c'est montrer l'impossibilité. Tout ce qui regarde l'impossibilité est d'ordre critique.
Mais là, dans cette première démonstration, on ne regarde pas la remontée à l'infini.
Non, mais attention, oui.
C'est ça qui est très curieux, parce que j'ai l'impression qu'il y a pour lui une véritable démonstration qui divise la réalité nue.
Regardez attentivement, on va regarder ça ensemble si vous voulez. En effet, si l'on pose cela, tout mu sera mu par quelque chose. Hein? Mais une chose est en repos parce qu'une autre a cessé son mouvement. Nécessairement, elle est mue par quelque chose. En effet, si l'on pose cela, tout mu sera mu par quelque chose. C'est bien ça que vous voulez.
Oui.
Car si AB est supposé mu, donc hypothèse, hein, l'hypothèse, c'est de la critique. Hein. Le raisonnement hypothétique n'est pas un raisonnement métaphysique, n'est pas un raisonnement philosophique. C'est un raisonnement critique. Le raisonnement hypothétique. Puisque c'est un raisonnement du possible. Or, le possible, c'est la critique qu'il regarde. Puisqu'on regarde l'impossible. Regardez le possible et l'impossible, ça revient au même. Alors, le raisonnement à l'égard du possible est un raisonnement critique. Or, si AB est supposé mu, hypothèse, il doit nécessairement être divisible. Bon, voyez, vous réduisez le raisonnement critique, vous ramenez au fondement. Quel est le fondement du mu? C'est le divisible. Ça, c'est un raisonnement critique. Hein. La réduction. Vous ramenez le divisible. En effet, tout mu est divisible. Mais il l'affirme. En effet, tout mu est divisible. Divisons-le selon. Et tout mu est divisible dans un raisonnement critique. C'est évident. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est mu implique la potentialité. Et la potentialité physique, c'est le divisible. C'est la quantité. Donc c'est net. Tout ce qui a été dit avant. Alors, divisons-le selon gamma. C'est un raisonnement hypothétique, hein. Imaginez ça, quoi. Faites un peu d'imagination. Parce que dès qu'on est dans une hypothèse, c'est l'imagination. Il faut beaucoup d'imagination pour suivre une hypothèse. Si vous revenez toujours, vous n'y comprenez rien du tout. Là, vous êtes dans l'imaginaire. C'est bon. Ça, c'est une vision critique. Parce que quand vous l'amour entre deux. Donc, ce qui est mu, est en acte. Bien sûr, il est en acte. Ce qui est mu est divisible. Fondement, c'est pas la même chose. Ce qui est mu est divisible. Mais ce qui est mu implique le divisible. Or, le divisible est en puissance. ira dans la galaxie. Là, pour voir que les calculs, c'est pas tout à fait ça. La personne ne meurt, parce qu'on ne peut pas s'asseoir dessus. Alors la galaxie, non, très bien, on fait tout, sauf que les calculs sont tellement beaux, très bien. Et est-ce que c'est la réalité? Vous n'en savez rien. Vous voyez, c'est toujours ce hiatus constant entre ce qui est intelligible et hypothétiquement une hypothèse. La science est hypothétique, ça c'est sûr, elle est hypothétique. Parce qu'elle est à base mathématique, alors elle est hypothétique. Mais le mathématicien, et c'est là où c'est très important, le mathématicien devrait être le garant et le gardien des sciences physiques, des sciences astronomiques, de la biologie. Attention, vous faites une hypothèse et vous croyez que c'est la réalité. Puisque vous vous servez des mathématiques pour formaliser. Le mathématicien, le grand matheux, il sait que c'est comme ça. Ce sont des mathématiques. Alors les mathématiques montrent bien que vous êtes à l'aise dans une hypothèse. Vous avez vous-même construit la chaise en donnant les différentes dimensions. Et vous savez que c'est une chaise mathématique. Mais le pauvre type qui n'est pas mathématicien, il croit que la chaise mathématique, c'est une chaise réelle. Et ça, c'est dessus, c'est une catastrophe. Celle-là, elle est réelle. J'ai touché avant, moi je le fais. Oui, parce que quand on est dans ces raisonnements, au bout d'un certain temps, on commence à continuer. Alors, je reprends. Oui. C'est, je crois, capital, ça, parce que là, on soulève une montagne énorme au point de vue raisonnement, au point de vue historique. On a répété ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi-même, j'ai répété. Quand j'étais jeune professeur, j'ai répété, que faites-vous? On va faire mieux, on répète, on s'appuie sur la tradition. La cause d'un certain type, c'est gênant, elle a dit, ne regardons pas trop ça. Puis on répète, on continue de répéter. Il faut bien voir que dans l'enseignement, il y a marqué, c'est bien, il le faut au début, mais il y a énormément de choses qu'on répète. Petit à petit, on se dit, non, on n'a pas le droit de répéter. On n'a pas le droit, on doit soi-même. Alors au début, on répète en prenant ses auteurs. Marquez que c'est légitime quand on prend les auteurs. Aristote a dit ça. Saint Thomas a dit ça. Alors vous comprenez beaucoup mieux Saint Thomas, vous voyez ça comme ça. Bien mieux. Et vous comprenez comment les voies lactées de Saint Thomas, c'est vraiment de la qualité.